La Bible le soufflement d'une telle fonction, et ce n'est qu'au début du 7e siècle, après Jésus-Christ, qu'un prélat osa s'ériger chef temporel de l'Église purement spirituelle. Aux temps apostoliques, l'Église prêchait l'évangile de la grâce salvatrice de Dieu, basée sur le rachat par son Fils. Elle admettait fraternellement en son sein tous ceux qui croyaient à Jésus comme sauveur, qui s'étaient repentis de leurs péchés et qui avaient été baptisés, immergés pour la rémission de leurs péchés. L'Église du Christ n'acceptait pas les enfants comme membres, se basant sur les enseignements du Maître, démontrant que le baptême n'était et ne pouvait être administré qu'à des croyants repentants et toujours par immersion totale dans l'eau. En effet, les personnes demandant le baptême devaient préalablement avoir reçu l'Évangile, avoir cru en Christ, s'être repentis de leurs péchés et avoir confessé leur foi en Jésus, le Fils de Dieu. Tout ceci excluait d'office la possibilité de considérer que des enfants, voire des bébés, puissent être membres de l'Église. D'ailleurs, Jésus n'avait-il pas dit lui-même aux adultes rassemblés autour de lui, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » On voit par conséquent très mal pourquoi un petit enfant aurait besoin d'être lavé de ses péchés, lesquels? Un prétendu péché originel sur lequel la Bible observe le plus parfait mutisme? L'Église du Christ des origines se réunissait chaque premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, pour participer entre autres à un repas symbolique en mémoire de la mort du Christ. Le livre des Actes raconte à ce propos, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Lors du culte qui était rendu, chaque membre du corps de Christ participait à ce repas sur les deux espèces, le pain et le vin, sans pour autant y voir autre chose qu'un simple mémorial en parfaite conformité avec la prescription du Seigneur disant « Faites ceci en mémoire de moi ». De nos jours, les membres de cette même Église du Christ à laquelle j'appartiens se réunissent toujours le premier jour de la semaine pour adorer Dieu. Comme les chrétiens du premier siècle, nous rompons le pain en mémoire du sacrifice expiatoire de notre Sauveur bien-aimé. Nos cœurs et nos esprits sont en profonde communion lorsque nous mangeons le pain et buvons la coupe lors de ce repas spirituel. Nous commémorons ainsi le corps divin brisé pour nos iniquités et son sang généreux versé pour quiconque veut suivre ses enseignements. C'est ainsi que nous exprimons toute notre reconnaissance pour l'immense sacrifice que Jésus a accompli pour nous sur la croix du calvaire. Au premier siècle, les instruments de musique n'étaient pas utilisés pour accompagner le chant dans le culte de l'Église. Les chrétiens observaient scrupuleusement ce qu'enseignaient les apôtres, comme par exemple ce que disait l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » La musique purement vocale était la seule en usage, et ce n'est que plusieurs siècles plus tard que la musique instrumentale fut introduite dans le culte. On ne trouve dans tout le Nouveau Testament pas un seul exemple d'utilisation d'instruments de musique dans le culte que rendaient à Dieu les premiers chrétiens. Pas un seul verset non plus n'ordonne ni ne conseille même leur emploi. Il n'en était pas ainsi dans l'Ancien Testament, au cours duquel cette pratique était courante. Lorsqu'ils se réunissent, les membres de l'Église de Christ, désirant se conformer en tout point à ce que leur ordonne la Nouvelle Alliance, ils chantent de tout leur cœur les louanges de leur Dieu, mais préfèrent s'abstenir de l'aide de piano, guitare, violon, orgue et autres accordéons. Lors de sa conversation avec la femme samaritaine, Jésus lui annonça, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Les premiers chrétiens avaient parfaitement compris cette spiritualisation profonde d'un culte qui, dans l'Ancien Testament, avait consisté plutôt à observer des rites et des cérémonies dans un endroit donné, plutôt qu'à adorer réellement au fond de son être. Ils se réunissaient où ils le pouvaient, et notamment dans les maisons des membres, en dehors de toute contrainte traditionnelle, cérémonielle, ou même rituel. Cinq expressions d'adoration étaient réunies le premier jour de la semaine. La Sainte Cène, au repas du Seigneur dont nous venons de parler, ainsi d'ailleurs que les cantiques spirituels, les prières, la collecte et l'étude, la méditation de l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui encore, les membres de cette même Église du Christ adorent leur Dieu de cette manière, en se réunissant pour adorer Dieu, soit dans des maisons privées, soit dans des salles de réunion, en dehors de tout faste, de tout rite et de tout cérémoniel. Tout comme les chrétiens apostoliques, ils élèvent devant le trône de Dieu des supplications et des actions de grâce spontanées qui constituent pour eux la prière. Ils parlent à Dieu en lui exprimant librement leurs réactions et les désirs de leur cœur, car il s'agit de véritablement communier avec son Père, et non pas d'utiliser des formules toutes faites, répétées à satiété. Nous participons chaque dimanche à une collecte, que nous considérons non pas comme une contrainte, mais comme une véritable grâce. Le Nouveau Testament n'exige pas de nous la dîme, mais nous enseigne à donner avec joie, régulièrement, selon notre prospérité, et avec libéralité. L'étude, la méditation et la mise en pratique de l'enseignement que nous ont transmis les apôtres de Jésus-Christ font également partie de ce culte à Dieu. Dans le livre des Actes, il nous est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La prédication et l'étude de cet enseignement apostolique sont vitales et la croissance de notre foi en dépend. Elle est aussi vitale, cette étude de l'enseignement apostolique, qu'elle l'était déjà il y a bientôt 2000 ans. Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal. Ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Bible et le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul ses enseignements et ceux des apôtres font autorité de nous. Nous parlerons de ce que la Bible dit et de nos ensuite à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, note postale 2398, 21086, Toulouse, Cedex. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, note postale 2398, 21086,